トカチンコカチン。キーキーキー。Je vous invite à suivre à présent l'émission de le ventre congolais avec un aéronc.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Exploitation forestière en RDC. Le ministre de l'Environnement a annoncé ce week-end la clôture du processus de conversion des anciens titres forestiers, document autorisant l'exploitation du bois, une position que ne partage pas l'ONG internationale Greenpeace, qui estime que beaucoup de choses restent encore à faire. Comment analyser la décision du ministre de l'Environnement et la réaction de Greenpeace ? Trois invités participent à cette émission. José Endundo Bonongue, ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et du Tourisme et Tourisme du gouvernement central. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir.
René Ngongo, chargé de campagne forêt à Greenpeace Afrique. Monsieur Ngongo, bonsoir.
Bonsoir.
François Nzekouye, analyste et expert en environnement. Monsieur Nzekouye, bonsoir également.
Bonsoir, Alain Ngongo.
Comme d'habitude, vos réactions nous sont déjà parvenues. Jean-Pierre de Kinshasa, pourquoi ce processus de conversion a-t-il tant traîné et quelles sont à cet effet les garanties de transparence que peut nous donner le ministère de l'Environnement ? Patou Kiandi de Matadio Bakongo, que gagneront les populations autochtones à l'issue de ce processus ? Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission ? Réagissez par SMS au 081 05 15 678 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Exploitation forestière en RDC, je l'ai dit tantôt, le ministre de l'Environnement a annoncé ce week-end la clôture du processus de conversion des anciens titres forestiers, document autorisant l'exploitation du bois, position que ne partage pas l'ONG internationale Greenpeace, qui estime que beaucoup de choses restent encore à faire. Plus de détails avec vous, Kevin Côté.
Le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, José Ndundo, a annoncé samedi 27 janvier au cours d'une conférence de presse la décision du gouvernement congolais de clôturer le processus de conversion des anciens titres forestiers. Cette décision, a-t-il expliqué, consiste à renforcer la légalité dans l'exploitation forestière en RDC. Sur les anciens conflits titres forestiers couvrant 22 400 000 hectares, 88 ont été retenus, ce qui ramène la superficie forestière totale concédée à 12 200 000 hectares à déclaré José Ndundo. L'ONG internationale Greenpeace, qui a pris part à la conférence de presse animée par le ministre de l'Environnement, a réagi et selon son représentant en RDC, René Ngongo, le processus de conversion des titres forestiers n'est pas encore clôturé, malgré l'optimisme affiché par le ministre de l'Environnement. Greenpeace, qui lutte pour la protection de l'environnement, a indiqué que certaines entreprises qui ne disposent pas encore des titres reconvertis exploitent le bois en toute illégalité.
Merci, Kevin Kouté. Monsieur le ministre, José Ndundo, ce processus de conversion est en cours depuis le 24 octobre 2005. Il vient de se clôturer ce week-end. Pourquoi a-t-il tant traîné ?
Mais je voudrais dire, à l'adresse de mon ami René Ngongo, que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Parce qu'on ne transforme pas un tel secteur, on ne modernise pas un tel secteur en quelques mois ou en quelques années. Ce processus n'a pas commencé en 2005, il a commencé en 2002. C'est à ce moment-là que l'État congolais a pris ce qu'on appelle le code forestier. Et il y a eu le décret du président de la République en 2005. À l'époque, le président prenait des décrets et pas des ordonnances comme sous la nouvelle constitution. Et donc, j'ai trouvé en chantier une loi, un décret et les mesures d'application qui devaient être prises à part quelques-unes sur la cinquantaine ou la soixantaine qui devaient être prises, il y en avait à peine trois ou quatre qui avaient été prises. Donc il a fallu prendre des décrets, vous savez qu'un décret pour le prendre ça prend un certain temps, il a fallu prendre des arrêtés interministériels impliquant plusieurs ministères, donc des consultations ministérielles, il a fallu prendre des arrêtés, ce qui a été fait, il reste encore quatre ou cinq textes, et j'étais dans une réunion avec la société civile il y a quelques jours, et avec René Ngongo, et nous avons compris qu'il fallait aussi associer quelquefois la société civile dans ces textes-là. Et je me rallie à cette démarche, et c'est ce qui fait que les textes qui restent à prendre seront pris, mais en concertation avec la société civile. Je veux que ce soit, et c'est l'intention du gouvernement, un processus le plus largement participatif possible. Alors maintenant, on a terminé une première phase. La première phase, c'était l'obligation que j'avais comme ministre, c'était de revoir, de revisiter tous les titres. On a parlé de 156, on est revenu à 80. et ça tenait compte d'un critérium qui avait été établi, quelles étaient les installations, quels étaient les investissements de ces entreprises, quelles étaient leurs contributions au budget de l'État, toutes ces mesures, quelles étaient les capacités humaines de ces entreprises. Après un large examen qui a été le plus participatif possible, parce qu'il y a des forces qui sont venues de l'intérieur, il y a eu la société civile, il y a eu la communauté internationale qui était représentée, on est arrivé, et je l'ai annoncé il y a quelques jours, à 80 titres. Est-ce que le processus est terminé? Non, les questions qui ont été posées, justement lorsque j'ai fait la conférence de presse, démontrent clairement qu'il y a un point capital qu'il faut encore résoudre, c'est le cahier des charges. Mais à chaque jour suffit sa peine.
Alors, vous parlez de la participation de la communauté internationale, des participants qui sont venus de l'intérieur. Cela suffit-il pour garantir la transparence de ce processus?
Mais je crois que la transparence est établie par les textes. Un ministre applique les textes qui existent, soit la loi, soit le décret présidentiel de 2005, soit les textes qui sont pris en Conseil des ministres, comme les décrets, soit aussi les arrêtés. On a essayé d'associer, et je crois que René Ngongo vous dira qu'il y a un esprit d'ouverture complet au niveau du ministère, même en direction de la société civile, leurs avis sont pris en compte, on a voulu associer tout le monde. Est-ce que le processus est parfait, totalement transparent? C'est à moi de le dire, mais je fais en sorte qu'il y ait conformité entre les textes et les actions qui sont menées pour justement rendre le plus transparent possible ce domaine d'exploitation des ressources forestières.
Alors, Monsieur le Ministre, le 27 août 2010, la Coordination nationale du réseau de ressources naturelles, RRN, a organisé un point de presse où elle considérait que le repêchage de 16 autres titres forestiers en plus de 65 était une façon de fouler au pied ce processus de conversion.
Et ça, c'est sa responsabilité. Et chacun ami est libre de dire ce qu'il fait. Mais lorsque vous vous trouvez avec des investisseurs qui sont... Là, il y a la lettre et l'esprit de la loi. Lorsque vous vous trouvez avec des investisseurs qui ont reçu des concessions forestières par le fait du gouvernement, qui obtiennent encore des investissements avec l'accord du ministre et des Finances et du Plan, pas seulement du ministre de l'Environnement, mais deux autres, que faites-vous alors que partout dans le monde, on ne cesse de dire que la République démocratique du Congo prend des contrats et ne les respecte pas? Première question. Deuxième question. Ces entreprises ont engagé des centaines de Congolais. Je ne dirais pas des milliers, mais des centaines de Congolais. Que faites-vous de ces gens qui ont cru en ces entreprises, qui ont travaillé dans ces entreprises, qui ont femme et enfant? Du jour au lendemain, vous les mettez à la porte.
Ça figurait parmi les critères?
Pour un ministre responsable, c'est un critère extrêmement important. Savez-vous que lorsqu'on a décidé de suspendre certains contrats, il m'est arrivé d'aller à l'intérieur et de me trouver confronté à des populations qui disaient « Mais pourquoi? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous annulez un contrat d'une entreprise qui est ici, qui est la seule possibilité pour nous de transporter les marchandises? Vous voulez nous associer? Pourquoi mettez-vous à la porte des gens qui ont un emploi mal payé? C'est certain qu'ils sont mal payés, mais qui parviennent au moins à payer le minéral de leurs enfants, vous arrêtez l'activité de cette entreprise. Et que faites-vous de ces entreprises qui ont reçu effectivement un contrat du gouvernement congolais? Peut-être par leur faute, mais aussi par la faute du gouvernement congolais, parce qu'on a continué à attribuer des titres. Que faites-vous de ces responsabilités vis-à-vis de la jurisprudence internationale, vis-à-vis de ces gens qui ont perdu l'emploi, vis-à-vis de l'activité sociale et économique de ces gens? Je crois que tout ce que je vous dis a été expliqué à nos amis, qu'il s'agisse des gens qui sont de la société civile, qu'ils soient du gouvernement. La responsabilité est là. Il faut agir en tenant compte des réalités et tout en respectant les textes. C'est ce que nous avons essayé de faire au ministère de l'Environnement.
Alors, René Ngongo, vous êtes chargé de campagne Forêt Greenpeace Afrique. Pour vous, le processus de conversion des titres forestiers n'est pas encore clôturé, malgré l'optimisme que semble afficher le ministre.
Merci Alain pour la question, mais je vous avais suivi son excellence. Il nous rejoint dans la plupart de nos interrogations et nos inquiétudes. S'agissant par exemple des emplois générés, là, je suis content que aujourd'hui, son excellence parle des centaines, parce que nous avons eu des documents où on parlait de 20 000 emplois, et à l'époque, nous avons rejoint les amis de la société civile, RRN, pour montrer que c'est des chiffres qui étaient exagérés. Et nous, nous sommes confiés aussi parce que le ministre a parlé de la transparence. Et pour la crédibilité du processus, il y a eu un observateur indépendant qui a été commis par la communauté internationale pour suivre de près ce processus. Et nous avons rejoint ces analyses par rapport à toutes les réserves concernant les 16 titres, parce que vous avez parlé de questions sur les 16 titres. Parce que, à l'époque, lorsque nous avons approché l'observateur indépendant, il avait mis des réserves parce qu'il n'avait pas vérifié la véracité des sites qui étaient avancés. Et lorsque, dans un premier temps, 5 titres ont été récupérés sur les 16, nous nous sommes dit certainement qu'on a vérifié et après on a trouvé que les 5 remplissaient les conditions. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que tous les titres ont été convertis et ça pose le problème de crédibilité des engagements. Nous n'allons pas revenir sur tout le processus et le travail qui a été fait par la commission interministérielle, mais nous remarquons encore une fois que ça pose un problème par rapport aux engagements. C'est vrai que il y a toutes ces questions des investissements, mais c'est le même gouvernement qui a fixé les critères. Et quand on fixe les critères, nous attendions aussi qu'il y ait respect de ces critères. Et c'est comme ça que nous, à Greenpeace, mais c'est un point de vue qui est rejoint par beaucoup de compatriotes, surtout de la société civile qui suivent au quotidien ce processus, nous mettons des réserves par rapport à l'implication et même à la contribution. Nous espérons recevoir du gouvernement la contribution réelle du secteur forestier au budget de l'État, parce que les sites que nous avons ne nous encouragent pas à être optimistes par rapport à la contribution. Et quand vous faites maintenant le tour des exploitations, mais c'est tous les jours que nous avons des rapports de conflits entre les communautés et les exploitants. C'est comme ça que lorsque vos collègues nous ont demandé nos réactions, nous avons dit qu'il est prématuré, parce que ces conflits, récemment, il y a quelques jours, je crois, nous avons été avec son excellence, nous lui avons fait part de l'arrestation de 16 paysans à Lissala, et dont 3 actuellement se retrouvent dans des conditions d'incarcération en Bandaka. C'est rien que pour prendre cet exemple, sans citer ce qui se passe dans la province orientale, dans la province de Bandundu, c'est quelques cas isolés, montrent suffisamment qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et à ce moment-là, pour la crédibilité de notre pays, nous devons, lorsqu'on a souscrit à un processus, respecter ce processus jusqu'au fond. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Nous rejoignons totalement les inquiétudes et les réserves de l'observateur indépendant. Et les réalités sur le terrain nous prouvent qu'il y a encore beaucoup d'énormes efforts à réaliser pour qu'on parle de la fin de ce processus.
Donc, à vous comprendre, il y aurait un grand fossé entre ce que dit le ministre et la réalité sur le terrain.
Non, je dois dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancées, et ça, nous l'avons toujours dit à l'actif du ministre, qui a signé beaucoup de textes allant dans le sens de mettre fin à ce processus qui a vraiment pris du temps. Mais lorsque vous êtes sur le terrain, et je crois que les éditeurs qui sont en train de nous suivre, vu que c'est réalité, il n'est pas rare de trouver des communautés qui disent « Mais qu'est-ce que nous gagnons en contrepartie de ces grimes qui sont en train de partir ?» J'ai parlé tout à l'heure de la contribution au budget de l'État. Et lorsque vous causez parfois avec les mêmes exploitants, ils vous disent que l'exploitation forestière au pays n'est pas rentable. Je n'entre pas sur les dommages sur le plan environnemental parce que jusqu'à présent, aucune des entreprises ne met encore en application le plan d'aménagement tel qu'exigé par la loi. Donc, vous trouvez, c'est déjà sur le plan écologique, pendant que notre pays, aujourd'hui, sous la houlette de son excellence, M. le ministre, se veut champion de la préservation de ses forêts.
Y aurait-il, René Ngongo, un problème au niveau des critères établis par le ministère de l'Environnement pour sélectionner les entreprises?
Pour sélectionner
les entreprises par rapport à la réalité sur le terrain, comme vous l'évoquez.
Non, en fait, ce n'est pas le ministère qui les sélectionne. Les entreprises se sont inscrites. Il y a eu 156 titres qui ont présenté des dossiers pour être convertis. Parce qu'avant, il y avait des garanties d'approvisionnement et les lettres de détention. Il fallait maintenant se conformer à la loi de notre code forestier depuis 2002 pour passer au mode de concession. Et c'est ce processus qu'on appelle processus de conversion qui a été déclaré terminé, qui nous inquiète parce qu'à notre avis, il y a encore d'énormes choses à faire et le ministre l'a reconnu tout à l'heure.
François Zekouye, analyste et expert en environnement, vous avez suivi le ministre Ndondo et René Ngongo. Quelle est votre analyse à ce niveau?
En suivant les deux premiers intervenants, on fait en fait les constats qu'il y a un malentendu, plus qu'un problème. Parce que les processus qui est fini, c'est dire que sur les 150 titres, on a retenu 80 qui sont convertibles. Parce qu'à ce jour, en fait, il faut dire que aucun de ces titres n'est converti parce qu'il y a des conditions qui sont assujetties à la conversion. Ce que nos amis de Greenpeace ne disent pas. En fait, pour que les titres soient convertis, il faudrait qu'il y ait une négociation d'un cahier des charges entre ces entreprises et les communautés locales. Ça, c'est une des premières conditions. Et cette condition-là rejoint la préoccupation légitime de Greenpeace et des autres organismes de société civile. En ce sens que, pendant longtemps, beaucoup d'entreprises ont œuvré dans ce secteur sans prendre des engagements sérieux avec les communautés locales. Donc, cette crainte qui est exprimée par la société civile est une crainte qui est fondée, mais il n'est pas dit que le gouvernement n'en tient pas compte parce qu'il considère que c'est une condition parmi les conditions sine qua non qui feront qu'une entreprise puisse passer au-delà du fait d'être éligible, d'être effectivement dans le régime conventionnel. Il y a le deuxième, la deuxième condition, c'est qu'en ayant 4 ans, chaque entreprise devra réaliser un plan d'aménagement comprenant une étude d'impact environnemental et social. Donc, encore une fois, la préoccupation et environnementale et sociale est reprise dans les conditions d'éligibilité pour ces entreprises qui vont être, qui sont aujourd'hui les 80, ou les titres, parce qu'on ne parle pas d'entreprises ici, on parle des titres qui peuvent appartenir à une ou plusieurs entreprises. Donc, c'est dire que ces préoccupations sont de plus en plus prises en compte aujourd'hui, même si pendant longtemps, ils n'ont pas été prises en compte. Et moi, j'ai dit, bien évidemment, heureusement que nous en sommes arrivés là, parce que le code forestier existe depuis 2002.
Mais est-ce qu'il est appliqué, ce code?
Et que j'ai dit, voilà ce que je voulais dire. Le code forestier existe depuis 2002, mais les mesures d'application arrivent simplement, seulement presque 10 ans après. C'est une anomalie. Mais on ne peut pas l'attribuer à la gestion ou au leadership d'un ministre actuel, parce qu'il y a eu plusieurs ministres qui sont passés entre-temps, mais je crois que c'est aussi lié au manque d'engouement de la communauté internationale. La même communauté internationale, à travers la Banque mondiale, qui avait financé jusqu'à terme les processus du code minier, par exemple, qui le code minier a été publié en 2002, et en 2003 déjà, les règlements miniers étaient publiés pour pouvoir réglementer les secteurs. Les moyens ne sont venus que tard pour ce qui concerne les domaines du ministère de l'Agrément ou les domaines forestiers. Il faut quand même que nous puissions dire la vérité en cette matière. Mais nous disons que, ceci dit, nous espérons que dorénavant, les détenteurs de ces titres vont s'assujettir effectivement à ces deux obligations majeures quant à ce qui concerne les communautés locales. La première obligation, c'est un cahier des charges qui doit être négocié. Bien évidemment, nous espérons, pour ce qui concerne les secteurs forestiers, que la société civile va accompagner les populations locales. Parce que ce que nous vivons dans le secteur minier est que les populations sont abandonnées à leur titre sort. Les règlements existent et quand les entreprises doivent négocier le cahier des charges avec les communautés locales, souvent, des chefs coutumiers qui vous demandent de leur construire une maison, de leur acheter une voiture ou un vélo, et ils oublient que les biens des communautés locales ne se résument pas à leurs biens individuels. Donc, nous faisons un appel aux organismes de société civile pour être présents au moment des négociations des cahiers des charges pour que les populations ne soient pas flouées. Mais bien évidemment, également, pour ce qui concerne les plans d'aménagement, il faudrait que le ministère des Mines exige que ce soit des bureaux d'études agréés et techniquement outillés qui réalisent ces plans d'aménagement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans ce terminé, c'est que tout le monde fait ce qu'il veut en cette matière parce que la loi n'a pas donné des contraintes fermes quant à ce qui concerne l'élaboration de ces études-là, de sorte que
l'environnement soit protégé. Parce que si on laisse l'élaboration de ces plans d'aménagement à n'importe qui, nous allons connaître le même problème qui sont en train de se passer au niveau du secteur minier dans le domaine forestier.
Mais François Nzekouye, René Ngongo a émis des réserves quant à la crédibilité de ce processus.
Non, moi je ne crois pas, j'ai participé au processus minier, je trouve que celui-ci a été trop transparent même. D'abord, vous vous rendez compte que la commission interministérielle a été composée par les personnes venant de tous bords. Et c'est déjà, à mon avis, un aspect important parce qu'on est allé sélectionner les représentants des communautés locales, ça c'est un élément, les représentants de la société civile ont été intégrés et les gouvernements. C'est dire quand même qu'il y avait plusieurs regards, ce n'est pas une affaire qui a été boutiquée simplement par le gouvernement. Et je dis que les arguments qui ont été évoqués par Son Excellence pour prendre ou plutôt sauver en délibération les 15 autres entreprises font quand même que, d'une part, on dit qu'il y avait quatre critères majeurs. Le premier critère, c'était avoir payé des redevances pour les superficies occupées pendant 3 ans. D'avoir des documents légaux, d'avoir son objet social qui cadre avec l'activité forestière. Bien évidemment, l'aspect social devrait être intégré là-dedans et je crois que cela a dû être fait en concertation avec les différents partenaires.
Monsieur le ministre, je vois René Ngongo demander instamment la parole. Je vous l'accorde tout à l'heure, René Ngongo. Monsieur le ministre, François Nzekouye fait allusion au cahier de charge. Je pense que c'est là que la population devrait se retrouver. Que gagnerait la population à l'issue de ce processus?
D'abord, permettez-moi de rectifier très rapidement certaines choses. En termes d'emploi, j'ai parlé de centaines par entreprise. Lorsque vous globalisez, vous arrivez à quelques milliers d'emplois. Nous le voyons régulièrement. Il y a une commission de la société civile, René Ngongo est le facilitateur. Nous allons livrer à l'exercice qui consiste à prendre sur les entreprises qui ont été repêchées combien d'emplois auraient été perdus. Il ne faut pas compter seulement sur les emplois directs, il faut compter sur les emplois collatéraux. Le transport fluvial, par exemple, ça représente des emplois et ça permet de transporter le bois. Les activités socio-économiques que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est aussi, ça fait partie d'un package. Les devises qui permettent la stabilité monétaire, parce qu'on importe, il faut donc avoir des devises, le bois le fournit. La totalité du volume de ce que le secteur apporte représente 30%. Malheureusement, comme dans ce pays, la caractéristique, c'est la multiplication de la fiscalité, de la parafiscalité. Tout ça se dilue. Mais si la totalité devait être payée directement au trésor, ce serait tout à fait différent. J'en arrive maintenant à parler de la manière, mais très rapidement, de la commission interministérielle. Je remercie mon ami Nzekouye de ce qu'il a dit ici. Ça a été un processus totalement participatif. Parce que, figurez-vous, s'il n'avait pas été participatif, pourquoi la commission interministérielle a dit elle-même à la clôture qu'il y a des dossiers dont l'ampleur de la question nous échappe et nous le reconfions au gouvernement. Et ce qui a été fait en partenariat total et absolu avec les bailleurs de fonds. Vous savez comment ils sont regardants dans ce domaine aujourd'hui. La question forestière est aujourd'hui devenue une question qui dépasse le cadre d'un pays comme le nôtre. Elle est devenue une question internationale. Bon, maintenant, j'en arrive au cahier de charges. Le cahier de charges, et nous en avons parlé il y a trois jours avec la société civile, et demain, dans l'après-midi, puisqu'il y a une réunion maintenant entre les opérateurs économiques, la société civile, le ministère et les bailleurs de fonds. Le cahier de charges, c'est cela qui va déterminer si ce secteur va changer de visage. Qu'est-ce que nous faisons pour les populations, des hôpitaux à un standard plus ou moins acceptable, ou des hôpitaux qui n'existent que de nom, comme je l'ai vu.
Ou des sacs de sel, simplement.
Ou des sacs de sel. Et pour ça, c'est moi qui ai demandé à la société civile d'être partie prenante. Il y avait un facilitateur choisi par la Banque mondiale. Parce que pour faire ce travail, il y a $1,200,000 qui ont été affectés par la Banque mondiale dans le cadre du financement actuel. Aujourd'hui, après la réunion que nous avons eue, j'ai exigé que la société civile, qui se plaint, par quoi juste titre, soit associée à ce cahier de charges. Mais qu'est-ce que j'attendrai de la société civile? Qu'est-ce que nous attendons de la société civile? Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Soyons réalistes. Une entreprise forestière est une entreprise. Il y a des gens qui mettent de l'argent, ils veulent gagner de l'argent
ce pays doit trouver les comptes, les populations doivent trouver les comptes. Donc, leur compte, ce que nous allons faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait un moyen terme qui permette aux populations de voir qu'on peut construire des écoles en durable, qu'on peut avoir des hôpitaux plus ou moins servis, que le fonds qui va être créé, qui va être co-géré, et la société civile le sait, le soit dans des conditions qui permettent à ce que, comme je le disais tout à l'heure, et l'État congolais, et les opérateurs économiques, et les populations riveraines ou autochtones, et la communauté internationale, parce qu'il s'agit maintenant de la zone climatique, que chacune des parties trouve son compte.
René Ngongo, vous avez demandé instantanément la parole tout à l'heure.
C'est comme si le ministre lisait dans mes pensées, parce que je voulais revenir justement sur les 16 titres qui faisaient l'objet du débat, sur base des observations de la commission interministérielle. Et nous, à la société civile, dans le cadre de la transparence, nous aimerions entrer en possession de ces dossiers. Parce qu'il y a eu des déclarations par rapport au nombre d'emplois, il y a eu des déclarations par rapport aux unités de transformation et au paiement des taxes. Dans le cadre de la transparence, on aimerait savoir sur les 15 titres requis, quels étaient les critères. Et là, je reviens parce que tout à l'heure, M. Zekoui a parlé que le possible n'est pas arrivé à la fin. Mais là, nous revenons sur le point de départ. Vous avez annoncé la fin d'un processus. Je crois que quand un étudiant suit une formation, à la fin de sa formation, on lui attribue le diplôme. Et nous, on s'attend à ce qu'à la fin de ce processus, que les concessionnaires puissent avoir leur contrat. Et il y a tout un processus pour arriver à ce contrat-là. Et c'est comme ça que nous nous disons, on n'est pas encore arrivé au bout. C'est comme si on proclamait les résultats avant la fin de la session. C'est comme ça que nous disons, il y a encore beaucoup de choses à faire pour arriver à la signature. Parce que les 80 ou les 35
le ministre semble ne pas être très d'accord
avec. Qui étaient éligibles ou convertibles, ça on le sait depuis plusieurs années. Donc nous on attend, c'est que quand on parle de la fin d'un processus, qu'il y ait ces contrats avec tout ce que ça implique sur le plan des engagements par rapport au gouvernement.
Un mot, monsieur le ministre.
En processus, vous faites l'école primaire, vous terminez, c'est sanctionné par un certificat. Vous avez terminé cette phase. Vous faites les candidatures, vous faites l'enseignement secondaire, vous avez un certificat, vous faites les candidatures. Mais c'est là les différents processus qui font un tout, qui s'appellera maintenant une gestion durable de nos forêts. Il y a des étapes. Peut-être qu'il faut dire étape au lieu de processus, c'est ça qui, c'est ça qui dérange mon ami de Greenpeace. Il y a des étapes, il faut les franchir. Aujourd'hui, regardez le sort qui a été fait. 156 titres, il y en a 80 qui sont retenus. Près de la moitié sont tombés. 22 millions d'hectares, on passe à 12 millions d'hectares. 10 millions d'hectares sont tombés. Entre-temps, parce que ça, c'est très important, j'ai oublié de le dire. Qu'avons-nous observé? Je pense que Ngongo est suffisamment ouvert, neutre, pour le reconnaître avec moi. Il y a une augmentation du pillage de nos forêts, par exemple, à l'Est. Et nous contrôlons aujourd'hui, nous considérons aujourd'hui que le secteur formel que nous identifions est quelque part aussi la police dans ce domaine. C'est tout ça qu'il faut intégrer pour juger convenablement ce processus.
René Gourou.
Je voudrais juste, par rapport au rapport, il y a eu dans les communiqués de presse, le ministre a annoncé des missions qui ont été réalisées sur le terrain. Et c'est sur base de ces missions qu'il a été constaté l'arrêt effectif des titres qui n'étaient pas convertis. Mais les informations en possession, et je crois qu'on a donné quelques informations au ministre il y a quelques jours, font état des activités dans ce titre. Alors, je pense que, comme on aura une réunion très prochainement, nous sommes vraiment curieux de voir intéressés par ces rapports qui ont été diligentés pour effectivement finir l'étape, parce qu'on ne parle plus de la fin du processus, c'est une étape qui va nous amener à la fin. Donc ces rapports-là, dans le cadre de la transparence et de la collaboration avec la société civile, nous aimerions vraiment disposer ces rapports qui pourra, de manière à les confronter avec les informations que nous, au niveau de la société civile, nous possédons à ce moment-là, on pourra revenir auprès de l'autorité pour montrer là où nous trouvons qu'il y a effectivement des problèmes. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un processus qui a pris du temps et nous voulons qu'il soit mené vraiment dans toute la transparence pour plus de crédibilité du processus. Parce que on a besoin, la RDC a besoin de la crédibilité pour accéder à d'autres mécanismes comme le processus REG.
Prenons cette question qui nous vient de Kisangani pour vous, René Ngongo.
Joseph de Colombie, de Kisangani, en province orientale. Je pense, à mon avis, qu'il n'y a aucun impact palpable sur le choix que la communauté internationale donne pour la conservation de nos forêts. Il est vrai que 30% de la population de la République démocratique du Congo vit de ces forêts, mais il n'y a aucun impact sur le choix que donne les pays pollueurs de l'environnement.
René Ngongo, pour recadrer peut-être la question, que gagneraient les populations dans ce processus?
En fait, comme vous le savez, 40 millions de Congolais vivent de ces forêts. Les forêts, c'est la mère nourricière. Hein, quand vous allez dans ces milieux, c'est là qu'ils trouvent à manger, c'est là qu'ils trouvent les produits pharmaceutiques. Et ce n'est pas parce qu'il y a une exploitation qui vient pour une compétition qui se fait entre les communautés. On a connu beaucoup de conflits liés à cette compétition d'utilisation de la ressource. Et je suis tout à fait d'accord avec notre ami de Kisangani qui parle de la contribution de la communauté internationale. Et je pense que les ministres, avec tous les gouvernements et beaucoup d'acteurs de la société civile, y compris Greenpeace, nous sommes en train de militer pour qu'il y ait justement des fonds pour aider ces communautés qui dépendent ces forêts dans le cadre du processus de règles liées à la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation. Et à ce moment-là, c'est une ressource qui va être utile pour ces communautés. Elles pourront continuer à jouir longtemps de la ressource et en même temps recevoir des fonds dans le cadre de la mise en œuvre de projets alternatifs. Est-ce que on peut brader ces combats, parce que nous sommes vraiment réellement engagés dans ces combats, en faisant des petites ouvertures. Et vous avez suivi, le ministre a parlé des pillages de forêts qui se fait à l'Est, mais aussi dans beaucoup de provinces. Pourquoi il y a ces pillages? C'est parce que justement, l'administration et le gouvernement n'ont pas les capacités d'assurer le contrôle. Est-ce que, en ce moment-là, qu'est-ce qui nous garantit que ce contrôle va se faire dans les 80 sites qui sont en train d'être convertis? C'était un peu pour donner des éléments de réponse à notre ami. Oui, il faut des moyens et c'est un combat dans lequel nous sommes résolument engagés et nous ne voudrons pas que nous puissions partir du mauvais pied parce que nous ne respectons pas les engagements pris devant la communauté internationale.
François Zekouille, le ministre Ndondo a dit que normalement la contribution du secteur forestier au budget devrait s'élever à 30%, mais la pression fiscale et le reste fait que ça se dissipe un peu, c'est quand même grave.
Je ne sais pas si c'est grave ou pas, mais je crois que le problème est plutôt ailleurs. Je crois que, comme l'a dit tout de suite René Ngongo, il faut que nous puissions penser aux mesures d'encadrement. La fuite de l'impôt est souvent malheureusement liée aux déficiences de l'administration. Et tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est l'effort de conversion des titres. Et une fois passer effectivement à un régime conventionnel, il faudrait absolument que les structures de l'administration soient outillées. Vous n'allez pas contrôler à partir de Kinshasa combien d'hectares a dévasté une entreprise qui se retrouve dans les fins fonds de l'Équateur sans avoir les moyens. Et encore une fois, il faut les moyens pour rendre ces agents incorruptibles, parce qu'il peut y avoir des arrangements avec les entreprises sur le terrain, avec les agents, si les agents ne sont pas bien payés. Donc, les problèmes, il est général. Ce n'est pas simplement un problème du secteur environnemental, c'est un problème de l'État congolais. Tant que les agents de l'État ne sont pas mis dans des conditions qui leur permettent de vivre correctement, il est évident qu'il y aura des complicités qui vont faire fuir l'impôt. Bien évidemment, l'on se dit que pour payer correctement les gens de l'État, il faut qu'il y ait de l'impôt. Donc encore, c'est un cercle vicieux, bien évidemment, dans lequel nous nous trouvons. Mais c'est fondamental. Il faut effectivement que nous nous acquittions de nos impôts pour que l'État dispose de plus de moyens pour pouvoir payer ces gens et pour nous sécuriser, parce que plus ils sécuriseront cet environnement, mieux ça ira. Comme vient de dire encore une fois Raymond aussi, la forêt constitue tout ce qui peut faire vivre ces populations-là. Ils y trouvent la nourriture, les médicaments, les moyens de combustion, c'est-à-dire que pour se chauffer, pour manger, ils doivent brûler du bois. Et là, j'en appelle pour répondre à la préoccupation de notre intervenant, les Kisangani, que la communauté internationale doit nous appuyer pour pouvoir avoir des énergies renouvelables, pour promouvoir davantage du solaire. Parce que tant que nous pourrons nous concentrer simplement à la réglementation des cas formels comme les entreprises, sans nous préoccuper des dégâts que font toutes nos populations au quotidien. Parce que la plus grande dévastation de la forêt n'est pas liée aux entreprises forestières, elle est liée aux populations qui, par les contraintes de la vie, sont obligées d'utiliser du bois pour pouvoir faire tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Et donc, je crois que nous avons un débat bien évidemment bien cadré, mais au-delà de ce débat, nous devons penser à ce que la communauté internationale nous apporterait pour préserver effectivement nos forêts, parce qu'ils en sont les premiers destructeurs et les plus grands bénéficiaires. Donc, c'est cela, en fait, les débats. Oui,
prenons cette question qui vient de Goma, au Nord Kivu, pour vous.
Le nom de Mourima Dalton depuis Goma, la réalisation du ministre est bonne. Mais il faut que le ministère de l'Environnement mette toutes les batteries en marche à lancer une forte sensibilisation à la population, de mettre fin d'abord à la destruction de l'environnement pour que le peuple congolais puisse profiter de la potentialité de l'environnement comme celle du Brésil.
Le ministre y répondra également à votre analyse par rapport à cette loi.
En fait, ce que je viens de dire tout de suite, c'est-à-dire que la population ne détruit pas l'environnement par plaisir de détruire l'environnement. La population détruit l'environnement parce que c'est un besoin. Certes, il y a des questions qui peuvent changer, comme des méthodes culturelles. Arrêter la culture sur brûlis, qui est, à mon avis, un problème culturel de chez nous. On pense que c'est plus facile de brûler que de cultiver la terre. Malheureusement, ça appauvrit les sols et ça a des dégâts de ce point de vue-là. Mais de mon point de vue, je crois que la communauté internationale, je crois qu'on pourra en parler à une autre occasion, les négociations qui doivent se faire aujourd'hui sur les retombées de la préservation de nos forêts, parce que l'Occident nous dit seuls ceux qui ont des forêts secondaires sont éligibles pour bénéficier des différents financements pour la préservation de la forêt. Il faudrait quand même que cette question soit débattue et que nous puissions avoir aussi des revenus pour ce qui concerne la forêt primaire. Mais moi, je voulais revenir sur notre sujet très rapidement de ce soir. Moi, j'ai par contre une crainte du régime conventionnel. C'est simple que le régime conventionnel met l'État en face d'un investisseur. C'est une négociation entre deux parties. Et cette négociation, malheureusement, dans nos pays pauvres, amène souvent à la corruption. Et moi, je croyais que à la fin de ce processus, nous allions arriver plus ou moins à ce qui se passe dans le secteur minier, où il y a un régime général, on vient le premier qui est demandeur et qui remplit les conditions francs, mais les négociations entre parties pourrait, à mon avis, favoriser davantage la corruption et la fraude.
Monsieur le ministre, je vous ai vu regarder François Nzekouye de façon étonnée.
Curieusement, dans ce débat, nous sommes d'accord sur les principes. Par exemple, l'intervenant de l'Est qui parle du fait que les forêts et la conservation ne rapportent pas à ce pays. René Ngongo sait, dans les négociations internationales, nuit et jour, parce qu'il arrive de passer des nuits. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo dit ? Nous ne pourrons pas sauver les forêts, nous ne pourrons pas protéger la biodiversité si vous n'amenez pas une contrepartie pour les populations. Le débat est là, le combat est là, et la RDC qui conduit les négociations pour le changement climatique pour l'Afrique pour ces deux années revient sans cesse sur cette donne primaire, cette prémisse. Il n'y aura pas de sauvetage de la forêt. Primaire ou secondaire, ou la déforestation évitée, il n'y aura pas une réussite si la communauté internationale ne met pas et très rapidement la main dans les poches.
Et à ces endroits,
les pollueurs, aujourd'hui, vous savez,
concrètement,
à Cancun, il y a eu la création du fonds vert. 10 milliards, 10 milliards qui doivent passer 2020 à 100 milliards de dollars chaque année. Si nous passions 2020, et si tout ce qui se fait aujourd'hui, en termes de plan d'aménagement, en termes de gestion durable, est appliqué, la RDC pourrait recevoir, étant donné sa position, en comptant également Nagoya d'ailleurs, parce que Nagoya sur la biodiversité, ça a été un succès extraordinaire, nous devrions pouvoir recueillir annuellement 3-4 milliards de dollars. Ça dépasserait le budget actuel de la République démocratique du Congo de façon interne, je veux dire. Donc, il y a là ce que j'attends, moi, de Greenpeace. C'est bien entendu des critiques objectives sur le terrain ici. Mais aussi, puisque Greenpeace est une ONG internationale, qu'elle soit avec nous dans le combat pour que la communauté internationale, ceux qui ont pollué hier, puissent intervenir pour qu'il y ait quand même une compensation pour ceux qui, comme nos populations, ont préservé cette forêt depuis des millénaires. C'est là le débat. C'est bien la critique interne. Vous savez, c'est toujours le jardin du voisin est toujours plus beau que le vôtre. Aujourd'hui, ensemble, ONG nationale, regardons dans ce combat, qu'est-ce que nous pouvons recueillir pour notre forêt, la deuxième au monde, pour notre biodiversité, nous sommes parmi les 5 ou 6 grands, pour la question fondamentale de l'eau, qui est une donne. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut recevoir pour que, dans une gestion transparente, les populations puissent recevoir leur contrepartie. Voilà la donne fondamentale aujourd'hui. Tout le reste peut s'ajouter là-dessus. Et donc, des questions comme ce qu'il a évoqué, nous changeons complètement de système après ceci. Je voudrais quand même répondre.
Très rapidement, M. le ministre.
Vous n'aurez plus une forêt en République démocratique du Congo sans une adjudication. C'est-à-dire que ce sera totalement transparent.
René Ngongo, quelle peut être la contribution de Greenpeace, comme l'a évoqué le ministre tout à l'heure?
Je crois que partout, le ministre sera, il croit nos collègues qui soutiennent ce combat pour défendre les forêts. Parce que nous sommes conscients qu'il faut des moyens pour aider l'administration à faire son travail de contrôle. Il faut des moyens pour les communautés et nous le faisons. Mais seulement si nous sommes un peu inquiets, c'est parce que nous ne voulons pas que les décisions prises par le gouvernement congolais nous ôtent ces possibilités d'accéder à des fonds. Je lisais avant de venir ici un rapport de PricewaterhouseCoopers qui justement aborde cette question de la contribution du pays et émet des réserves par rapport au non-respect des engagements. Tout à l'heure, on est revenu sur les engagements du pays de la République par rapport au processus de conversion, un processus qui a été suivi. Et on a l'impression que la RDC joue sur les deux tableaux. En attendant qu'on puisse accéder à des moyens, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir pour que l'exploitation apporte tant soit peu sa contribution au développement? Or, après plusieurs années d'exploitation forestière, on n'a pas la conviction que cela pourra apporter des réponses. Et nous sommes inquiets, je pense que ça pourrait être la dernière préoccupation.
Voilà, la conclusion, parce que nous sommes
dans les points de presse, les derniers points parlent de la levée du moratoire, et cela nous a beaucoup inquiets. L'ouverture de ce moratoire, c'est vrai que le gouvernement fait face à beaucoup de pression des gens qui veulent vraiment atterrir des concessions. Merci. Nous voulons avoir des assurances de la part de son excellence. Merci. On ne va pas réouvrir nos forêts pendant qu'on est en train de négocier pour avoir des dividendes.
Merci René Ngongo. Permettez que je considère ça comme votre conclusion. Déjà, François, il faut conclure en moins d'une minute. On termine l'émission.
Oui, en conclusion, je crois que le processus a atteint une étape, il y a une autre qui commence, mais je tiens absolument à appeler le gouvernement de voir quelle manière il va encadrer ses agents pour qu'ils puissent bien contrôler le processus. Sinon, c'est là, c'est un processus voué à l'échec.
Monsieur le ministre, en un mot, quelle est la prochaine étape?
J'en voudrais d'abord assurer
très rapidement, monsieur le ministre.
Aujourd'hui, la Banque mondiale a commencé à examiner la possibilité d'un deuxième fonds après l'annonce qui a été faite samedi. Donc, ce processus est appuyé par les bailleurs de fonds. La deuxième chose, le combat aujourd'hui, c'est rapidement de l'argent international en urgence pour nos populations, pour les tribus qui gardent les forêts.
Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Capi. Okapi, okapi.